Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette deuxième partie de podcast des cols bleus, les oubliés de la digitalisation. Alors dans une première partie, nous avons pu traiter si tous les salariés étaient vraiment égaux face à la digitalisation, comment gérer les oubliés et encore plein d'autres sujets que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et dans cette seconde partie, on a vraiment voulu se concentrer sur la digitalisation comme facteur d'accélérateur de la fracture numérique. J'ai toujours le plaisir d'avoir au micro Antoine Poiron, directeur offre sourcing et partenariat chez Pixid. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, petit rappel, hein, Pixid, c'est le spécialiste de la flexibilité du travail. Vous accompagnez les entreprises et les agences d'emploi de la TPE au grand compte avec votre solution cloud unique du recrutement de candidats à la gestion administrative des talents. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
C'est toujours ça. Et Xavier Maudet, directeur associé Workforce Management chez Altea. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors Altea, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des fonctions transverses de l'entreprise, de la définition de leur stratégie jusqu'à la déclinaison opérationnelle sur des périmètres RH, SIRH, finance, achat, supply chain et opération. Alors, pour commencer, je vais me tourner vers vous, Xavier. Selon vous, quel est le rôle des RH dans la digitalisation et comment sont-elles accompagnées ?
Le rôle des RH est moteur dans cette digitalisation, pour les cols bleus notamment, parce que les opérationnels ou bien le service IT en général n'a pas de sujet à vouloir les digitaliser absolument, parce que les cols bleus, soit ils n'ont pas d'adresse mail, ils n'ont pas de besoin d'avoir un poste de travail avec un PC au quotidien. Et opérationnellement, ils sont sur la chaîne de production ou un service de collecte. Et du coup, c'est peut-être parfois une frustration des RH de ne pas pouvoir étendre certaines fonctionnalités comme par exemple la formation, les entretiens annuels ou d'autres sujets, la gestion des temps, la planification, auprès de ces collaborateurs-là, parce que d'un point de vue IT ou d'un point de vue opérationnel, ils n'ont pas d'accès à un PC ou une autre forme de terminal. Et donc, c'est souvent sous leur impulsion que se lance un peu cette digitalisation des cols bleus. Et c'est souvent donc les RH qu'on retrouve en première ligne, de cette digitalisation de cette population. On l'a vu notamment avec le bulletin de paie électronique, qui est un bon exemple pour ça. Comment ils sont accompagnés ? Souvent par les cabinets de conseil qui ont comme une vision, globale de ce type de projet et puis de cette approche. Et comment il faut procéder à cette digitalisation. Donc, après, on va revenir sur des classiques, d'un projet. Donc, bien définir les objectifs, bien faire l'état des lieux et puis faire la trajectoire de la mise en œuvre de ces projets. Et ça, comme ils ne font pas des projets tous les jours non plus, c'est vrai que nous, c'est un peu notre quotidien d'accompagner les clients sur ces digitalisations-là, quels que soient les domaines. Donc on peut apporter notre expérience et leur proposer les bonnes pratiques, en tout cas à mettre en œuvre dans leur secteur.
Alors, selon vous, comment on fait pour justement faire adopter les opérationnels au digital, Antoine ?
Il faut déjà, comme le disait Xavier, leur faire prendre conscience qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils perdent du temps à des tâches qui sont répétitives, chronophages, qui ont peu de valeur ajoutée. Et qu'il y a un problème, notamment par rapport à du recrutement sur des fort turnover ou volumiques, où là, ils vont perdre énormément de temps pour justement gérer les tâches administratives comme la DPAE, les contrats de travail, la remise des bulletins de paie, Xavier en parlait, tout ce genre de choses qui doivent être récupérées avant de réaliser la mission. Sinon, bien évidemment, le point de vue juridique, l'entreprise est en défaut. Donc c'est vrai que tout ce genre de choses, il faut que les opérationnels comprennent que c'est hyper important, qu'il y a des forts risques. Et donc ils vont pouvoir améliorer leur process et anticiper ce genre de problème. En plus, avec le Covid, forcément, maintenant on gère de plus en plus de choses à distance, sans rencontrer les personnes. Donc c'est devenu impossible, sans outils digitaux, de pouvoir gérer des échanges de documents, à part par mail, mais c'est vraiment très très long. Également, Xavier le disait, mais en fonction des organisations, quand on a 300, 400 sites en magasin ou qu'on a des choses, aujourd'hui, les RH ou les gens qui sont un petit peu les directeurs de magasin, ils sont vraiment isolés. Et ils ont de plus en plus de choses, d'obligations aussi à gérer. C'est eux qui doivent recruter, qui doivent gérer la partie administrative. Et là encore, quand nous, on a des prospects ou des clients qui nous disent « je ne sais pas combien de gens employés à aujourd'hui dans tous mes sites, je ne sais pas combien on a de contrats de CDD en ce moment. » Voilà, ça, tout ça, ça crée... ils prennent conscience vraiment du problème et donc on est là pour justement leur... pas tout révolutionner, mais les accompagner petit à petit à choisir leur bataille et à commencer par la signature électronique, ensuite potentiellement aller vers du bulletin dématérialisé, puis aller vers un portail salarié. Voilà, on les accompagne step by step, il ne faut pas aller trop vite, mais voilà comment nous, en tout cas Pixid, on oriente nos clients.
Et Xavier, côté Altea, comment vous accompagnez au quotidien ce type d'enjeu?
Donc nous, on est assez proche quand même des services RH et puis aussi des opérationnels, hein, notamment lorsqu'on est dans des sujets de planification et d'excellence opérationnelle. Déjà, on fait un bilan, un peu l'état des lieux de qu'est-ce qui est aujourd'hui géré manuellement et qui doit être qui est chronophage. Parce que souvent, lorsque c'est pas digitalisé, au niveau des cols bleus, le manager aussi a beaucoup de tâches manuelles à faire derrière. Ne serait-ce que pour imprimer le planning et le présenter aux collaborateurs, gérer les congés, c'est chacun qui note sur la feuille quand est-ce que je suis en congé, etc. Donc, de connaître les droits à congé, combien il me reste de jours ou combien j'ai fait d'heures, quand le collaborateur demande au manager, souvent le manager il doit imprimer le document, le donner. Et tout ça, ça fait des tâches chronophages pour le manager. Donc, on va mesurer avec eux le temps qui passe. Et puis montrer après aux opérationnels, donc directeurs de l'usine ou autre, que voilà, si on digitalise cette partie-là, si on permet aux cols bleus de pouvoir faire eux-mêmes leur demande de congé, c'est la chose basique, hein, mais de pouvoir consulter leur propre solde, le gain de temps que ça peut faire gagner au manager à ne pas faire de l'administratif. Et on demande au manager de gérer, de produire et de ne pas faire d'administratif. Donc, on va travailler déjà vraiment sur ce terrain-là, donc sur du concret. Et après, on va pouvoir donc remonter ça au comité de direction et présenter un peu les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, ce ne sera jamais des ROI, hein, parce que les ROI, on sait que c'est toujours des études qui sont... si on veut vraiment faire des ROI très fins, ça demande quand même beaucoup de temps à passer et d'analyser vraiment les choses en profondeur. Mais au moins, on peut dégager des pistes d'amélioration et des quick wins, comme tu disais, Antoine, de commencer step by step pour aller très vite sur des gains opérationnels et puis surtout des gains de temps pour le manager, quoi. Donc, on va travailler sur cette partie-là. Et puis après, avec les RH, voir quelles sont les parties qui peuvent être digitalisées et quels sont les apports, par exemple, pour digitaliser la formation ou digitaliser d'autres processus. Et quels sont les bénéfices, je dirais, de temps.
Et selon vous, est-ce que le confinement, ça a été un facteur d'accroissement justement de cette fracture numérique?
Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le télétravail était adopté seulement par 30% des salariés et 40% du salariat est digitalisé. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers forcément, qui peuvent se permettre de télétravailler à partir d'un laptop de leur maison ou de leur jardin, ou même de leur résidence secondaire. Par contre, tous ceux qui travaillent dans les entrepôts, dans les usines, dans les restaurants, dans les commerces, ou qui vont aller faire le ménage dans les entreprises, eux, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller sur le lieu de travail. Donc c'est vrai que ça a créé quand même une grosse fracture. Donc ça, c'est pas forcément par choix ou... Là, je ne pense pas que forcément ça soit des opérationnels qui ne soient pas aptes à télétravailler. C'est vraiment le fait de leur métier qui fait qu'ils ne peuvent pas du tout télétravailler. Et donc, on ne leur a pas offert des outils pour pouvoir télétravailler parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Ensuite, bien évidemment, ça a été aussi un peu mal vécu justement par ces gens-là qui parfois avaient le choix du télétravail, mais leur employeur et leur manager imposaient de venir au bureau et de revenir par habitude avec des avec vraiment une grosse gap de génération aussi entre les jeunes plutôt et les et les vieux managers. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a créé franchement une fracture. Enfin, moi, en tout cas, c'est notre avis. Mais par contre, notamment dans des organisations décentralisées où il y a beaucoup de gens, la direction et les RH ont pris le problème en main et se sont dit, ces gens-là, là, à qui on avait peu investi, on leur avait pas offert d'outils, et vraiment là, ils sont en incapacité même de continuer à produire sans outils digitaux parce qu'il y a une partie du process qui n'est plus gérée, là il y a un investissement et un vrai choix pour combler justement cette fracture. Mais c'est un petit peu notre retour d'expérience.
Alors, je sais pas si ça a vraiment accru la fracture en tant que telle, parce qu'il y en avait déjà une. Par contre, ça l'a révélé d'autant plus fort. Fortement. Et effectivement, ça a initié le mouvement de digitaliser plus rapidement ces populations, justement pour que le process soit plus efficient au global, comme tu viens de dire. Et puis aussi, on constate que quand même, avec les différentes crises qu'on a vécues, enfin, et qu'on vit, il y a de moins en moins de gens quand même sur le terrain, dans les entreprises aussi. Hein, tout le monde, il y a quand même une pénurie des tensions sur le recrutement global. On est obligé de digitaliser beaucoup plus pour pouvoir continuer les process. Effectivement, le fait d'avoir été confiné a mis en évidence, en exergue, qu'il y a eu des ruptures dans les process, parce que physiquement, on ne pouvait plus être là, ou plus de contact. Donc, toute cette prise de conscience à accélérer comme cette digitalisation. Et puis il y a aussi donc par effet plusieurs sociétés d'éditeurs qui proposent des solutions de plus en plus, je dirais, mobiles, et qu'on voit apparaître maintenant de manière plus opérationnelle et professionnelle à ce niveau-là, hein. Pixid est un très bon exemple pour à ce niveau-là. Mais je vois aussi d'autres solutions qui sont apparues dans la planification des ressources, et ça a fait émerger aussi quelques nouveaux acteurs de cette digitalisation dans certains domaines.
Oui, juste par rapport à ce que tu disais, Xavier, c'est vrai que nous, en tant qu'éditeurs et notamment sur le marché du travail temporaire, il y avait beaucoup d'agences traditionnelles qui ont dû fermer à partir du 17 mars 2020, quand le président a confiné, et donc étaient en incapacité de fournir des intérimaires à leurs clients, alors que toutes les entreprises de travail temporaire qu'on appelle les digitaux, les 2.0, eux étaient déjà outillés pour aller continuer à travailler, continuer à recruter, à sourcer des candidats et les envoyer en mission chez leurs clients. Donc on a vraiment vu que cette fracture, elle n'a pas été interne aux entreprises, mais elle était entre les entreprises elles-mêmes, entre celles qui étaient prêtes et celles qui n'étaient pas prêtes. Donc là, ils se sont retrouvés à zéro activité du jour au lendemain. Donc ça les a beaucoup pénalisés.
Alors messieurs, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Et avant de conclure, j'avais une dernière question à vous poser. Si on avait une chose à retenir de ce podcast?
Eh bien, que digitaliser un processus n'enlève rien à l'humanité de nos relations entre collaborateurs, managers, gestionnaires. Bien au contraire, c'est pas parce qu'on remplace une partie du process par un outillage que ça stoppe toute relation.
Très bien, merci Xavier. Et vous, Antoine?
Alors nous, côté Pixid, en tant qu'éditeur, c'est vrai que on n'a plus besoin de montrer les bénéfices d'un outil, mais vraiment aujourd'hui on s'attache pour justement que les utilisateurs adoptent les outils sur l'expérience utilisateur. Il faut que ça soit simple. Ils ne recherchent pas des outils qui font tout, mais justement qui vont leur apporter en trois clics vraiment le bénéfice hyper rapide. Et c'est là-dessus que nous on attache et qu'on développe la solution pour justement ensuite après apporter de la vraie valeur et donner une image un peu moderne à l'entreprise. Donc c'est là-dessus qu'on... S'il y avait quelque chose à retenir, c'est ça.
Merci beaucoup messieurs. Alors donc comme vous l'aurez compris, la crise du Covid, ça a été un véritable révélateur de la nécessité des entreprises d'être accompagnées et puis ensuite de s'équiper. Encore merci Xavier et Antoine d'être venus au micro d'Altea et de nous avoir donné vos points de vue et votre expertise et retour d'expérience. Si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.altea-6group.com ou sur le site de Pixid, pixid.fr, et continuez à découvrir toutes nos actualités. À très bientôt au micro d'Altea.